Sexe plus histoire de cul égale meurtre.
Ah, monde de merde.
L'homme le plus classe du monde meurt et ses dernières paroles, c'est monde de merde. Pourquoi il a dit ça?
Idée.
Classe, man. Top of the pop.
Prépare un dossier sur Georges Habitbot. Tu vas te mettre sur le coup, mais tu seras pas tout seul, tu seras avec Peter et Steven.
Peter et Steven, je les aime bien, mais pourquoi je peux pas travailler sur eux?
Parce que t'es trop mauvais. Georges, je l'ai connu au temps du Texas, il était encore cobaye.
La ferme? Quelle ferme?
À la ferme, ta gueule, toi, du con, espèce de crétin.
À quoi tu penses, si je me dis,
monde
de merde?
Au revoir.
Moi, vous pourriez nous parler de Georges Habitbot?
Oh, Rosebud!
Georges Habitbot.
Georges est un fasciste de merde! Un fasciste de merde!
A disparu. Poil au cul.
Eh, les minables! Y'a pas de quoi qui s'est pédé! Y'en a un autre, il s'appelle Georges!
Si tu veux me parler un peu, Max.
C'est de la merde mélangée comme ça partout, c'est politique. C'est mieux de faire les choses dans l'ordre.
Peter, il a la méga chiasse.
Ça doit être les burgers.
Il va manger des chips.
Ce que j'arrête, c'est les pins, vieux. Ça me fait plus marrer.
Si je fais journaliste, c'est évidemment en fait. Moi, je veux être connu. C'est pourquoi? Pour niquer les gonzesses.
Mettez des capotes.
Salut à tous et bienvenue sur Grand Écran, l'émission cinéma de RCN. Et on va donc avoir une émission très spéciale aujourd'hui, quand on va pas revenir sur un film, un réalisateur ou même d'autres sujets qu'on a déjà fait auparavant. Là, on va revenir sur un métier très spécifique au milieu du cinéma et pas que, même dans le milieu de la télévision et notamment de la série télé. On va donc revenir sur le doublage et notamment la place du doublage en France. Et avec moi, j'ai Guillaume. Comment tu vas, Guillaume ?
Ben, ça va et toi, Roland ?
Ça va, super nickel, super, comme dirait avant.
Prêt à parler de doublage, je suis très très content de faire cette émission avec toi, moi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire.
Et ben, je pense qu'on va, pas tarder là-dessus, car on va déjà, je pense, revenir forcément sur un élément essentiel sur le questionnement du doublage. Déjà, il faut revenir sur un contexte historique, donc forcément revenir sur l'histoire du cinéma. On est... D'ailleurs, dans un milieu très, très représentatif en France, hein, il faut le signaler. En France, en fait, dans les salles de cinéma, donc pour les films étrangers sortis en 2021, seuls 29% sont sortis en version sous-titrée. Donc, je vais juste commencer cette émission là-dessus pour expliquer qu'en fait, le doublage a toujours une place importante en France. Pourquoi ? Il faut revenir, en fait, que dès 1929... l'arrivée du parlant va changer la donne. Donc, il ne faut pas l'oublier, c'est que le cinéma va évoluer. Le cinéma donc, va chercher des nouvelles idées, des nouvelles techniques, et va arriver tout d'abord ce que l'on appelle les versions multiples. Alors, les versions multiples, je ne sais pas si tu connais, Guillaume.
Oui, j'ai regardé un petit peu, du coup. Et effectivement, les versions multiples, on fait venir donc, sur un même plateau, on va faire venir différents acteurs de différents pays pour pouvoir jouer la même scène sur le même plateau, avec le même scénario, mais dans des langues différentes, pour que ça puisse être produit et développé, que ça puisse être vendu dans tous les pays possibles.
Par exemple, les Laurel et Hardy étaient donc tournés en anglais, en français, en italien, en espagnol.
Ils leur écrivaient sur les panneaux le texte, donc du coup. Et donc eux, ils refaisaient. Alors, quand c'était des productions qui étaient assez, où il y avait du fric, les acteurs venaient carrément, des acteurs français et tout, venaient carrément sur le plateau. Quand c'était des trucs où c'était très loin et c'était impossible de faire venir d'autres acteurs, ils faisaient jouer par exemple Laurel et Hardy. C'est pour ça que je crois qu'on peut encore les trouver d'ailleurs sur YouTube. Il y a des extraits où on peut voir Laurel et Hardy parler en espagnol, en français, et où on se rend compte où c'est... ils savent même pas, alors peut-être un petit peu, il y a des trois mots qu'ils arrivent à comprendre, mais en fait c'est comme de la phonétique, un peu comme dans la chanson, il y avait Mike Brandt qui était israélien et qui parlait pas un mot français, qui chantait en français mais en phonétique, quoi.
Exactement, alors du coup c'est un problème en fait, les versions multiples, parce que déjà un, c'est hyper coûteux comme tu le disais, donc ça demande énormément d'argent, car en plus il fallait donc continuellement tourner, donc si on prenait même les mêmes acteurs, Donc il refaisait tout le temps les mêmes scènes avec les différents langages, donc ça amassait de la pellicule, ça amassait des lieux à louer pour les studios. Il faut savoir aussi donc que les acteurs massacraient la langue, ce qui était très très compliqué. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de personnes en fait déjà commençaient à critiquer le fait de ces versions multiples en fait, notamment en France en fait, le fait de voir des acteurs donc qui ne connaissent pas la langue parler quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Et c'est vrai qu'en fait la crise économique donc va bousculer ceci et donc va stopper net le principe des versions multiples. Et il faut le savoir en fait, donc dès le début des années 30 en fait, les techniques de doublage vont quand même se perfectionner, elles vont notamment être nettement plus rentables que les versions multiples. Et forcément les comédiens français donc vont d'ailleurs se mobiliser pour que les doublages soient faits donc par des acteurs confirmés.
On a surtout après-guerre des acteurs comme Jean Marais qui viennent et qui disent « Non, mais c'est pas possible, il y a trop de films américains qui viennent dans notre pays, il faut faire quelque chose pour que les acteurs et les actrices françaises puissent continuer à travailler, qu'on puisse avoir des films. » Et donc, du coup, c'est comme ça que petit à petit, ça a été réglementé, le doublage a été réglementé, quoi. Dans les années 50, pour un peu faire une sorte de barrage aux États-Unis et que, voilà, il puisse y avoir ce travail des acteurs et actrices françaises.
Exactement. Alors c'est vrai qu'en fait on a eu donc beaucoup de personnalités comme Jean-Marie et compagnie. Il faut le savoir, donc en fait dès 1928 il y a déjà eu une réglementation en fait sur le sol français pour l'autorisation de films étrangers, et donc ça va renforcer ce qu'on en appelle notamment en France l'exception culturelle française. Et donc en 1932 donc un décret est fait pour que les doublages soient même faits sur le sol français. Donc on a forcément une domination de ce que l'on va avoir avec les versions françaises, et c'est forcément là aussi, il faut pas l'oublier, on est sur un élan à l'époque très patriotique, très nationaliste en Europe surtout, hein, donc on est 1930, on commence à arriver notamment des groupes politiques extrêmes, fascistes et compagnie, en Italie, en Espagne, notamment en France aussi, il ne faut pas l'oublier.
Par exemple, en Italie et en Allemagne, il y avait aussi une volonté d'interdire tout ce qui était, anglais, américain, et c'était vraiment, tous les films devaient être en italien, ou en allemand, ou en espagnol.
Le fascisme en Italie nous a montré, clairement montré, avec notamment Mussolini, qu'il a utilisé ses outils comme pure propagande, comme par exemple Scipion l'Africain ou autre. C'était des films qui étaient forcément mis en valeur là-dessus, comme l'a été forcément l'Allemagne nazie. Ils ont également dominé ce marché également. Donc la domination des versions françaises se fait au détriment donc des versions sous-titrées. Il en est de même donc forcément pour les séquences musicales. On le voit notamment encore dans les tout premiers Disney aussi, de cette volonté de tout franciser. C'est un peu une force et une réglementation donc légitime qu'a voulu mettre en place donc à l'époque en France. Et il faut le savoir qu'en fait ce renforcement va être encore confirmé après la guerre, dès 1949, avec la loi sur l'obligation du doublage. Donc cela va provoquer forcément une culture du doublage, mais c'est surtout en fait une volonté en fait de montrer en avant
le
principe de l'exception culturelle française, voilà, comme je disais auparavant.
Carrément. C'est réaffirmer la langue française et réaffirmer le travail de la langue française, quoi. Et donc, effectivement, à partir des années 50, il y a vraiment, avec ça, va se créer une réelle culture du doublage avec des acteurs, des comédiens, des acteurs qui vont se professionnaliser là-dedans. D'ailleurs, de tête comme ça, je pense à Francis Lax, Roger Carrel, voilà, des gros noms comme ça, qui sont comédiens à côté, mais qui en même temps font du doublage. Et voilà, donc et à côté de ça, il y a quelque chose qui va se développer, qui est un peu, qui rentre dans ce truc, de cette chose de l'exception française. C'est ce qui s'appelle, au niveau de la technique, ils vont développer des techniques qu'il n'y a pas dans d'autres pays, comme par exemple la bande rythmo, qui va être créée en France en fait.
Exactement, c'est une technique particulière donc qui va être mise en place, et le savoir-faire technique, la bande rythmo, d'ailleurs c'est une chose que quasiment tous les autres pays vont vouloir se réapproprier également. Donc qu'est-ce que la bande rythmo? Donc en fait, pour les doubleurs, on leur présente des séquences de films, et en fait ils ont une petite bande horizontale qui est en bas de l'écran, qui défile en fait avec des indications, et qui va donc essayer non pas seulement d'améliorer la synchro labiale, mais également l'intonation de chaque moment clé de la séquence.
Tout à fait. En fait, par exemple, s'il y a, il doit avoir un soupir à certains moments, le soupir sera écrit. Voilà. Et à chaque fois, un espèce de petit décalage entre le moment où vous avez une espèce de bande, vraiment de traits, où le texte... Enfin, c'est vraiment comme un texte qui défile, en fait, comme un... Comment dire, comme un karaoké ou un jeu de rythme, et où en gros il y a le texte qui défile, et au moment où le texte tape au niveau de la barre, c'est à vous de parler. Et donc il y a toujours un léger décalage à avoir pour être sûr de bien rentrer dans cette synchronisation labiale. Et il y a vraiment tout qui est noté dessus, les soupirs, les respirations, les moments où vous avez la bouche ouverte, bouche fermée. Enfin, il y a vraiment toutes les indications nécessaires pour que le comédien ou la comédienne elle puisse. Coller parfaitement à ce qui est vu, ce qu'on voit à l'écran. Quoi.
Alors, il faut le savoir, quand même, à cette époque, on avait quand même déjà un clivage entre les défenseurs et les pourfendeurs du doublage. Il faut le savoir, c'est que les cinéastes, en fait, étaient concernés en premier chef, notamment prennent part au débat, et certains de façon très virulente. Hein. Donc, par exemple, s'opposant au doublage en anglais de La Grande Illusion, Jean Renoir, en fait, avait similé cette méthode à une pratique de sorcellerie et demande comment on peut admettre qu'un homme qui a une seule âme et un seul corps s'adjoigne la voix d'un autre homme, possesseur également d'une âme et d'un corps tout à fait différent. Après la guerre, donc, Jacques Becker s'insurge également, pour les mêmes raisons, contre un procédé qu'il estime être, je cite donc, « un acte contre nature, un attentat à la pudeur, un monstre, il faut tuer le monstre ». Voilà.
Oui. Mais après...
Donc en fait, quand on parlait du doublage en France, on était vraiment sur une volonté forcément de voir ça un peu à la base forcément aussi comme une menace parce que le cinéma américain commençait à prendre de l'ampleur sur toute l'Europe. Mais c'est vrai qu'en France, on a eu, notamment avec le plan, face au plan Marshall, on avait fait beaucoup de lois pour protéger le cinéma français, et c'est encore d'actualité. Et c'est vrai qu'en fait, voir le principe du doublage s'étoffer même outre-Atlantique, ça avait provoqué déjà les premiers émois de protestation.
Oui. Non, mais après, il y a une technique qui fonctionne et qui... Ce qui est drôle, c'est que sur le métier, mais on en reviendra après, le métier de comédien de doublage a été beaucoup décrié, et même dans la profession, quand tu étais comédien, c'est comédien de doublage. Alors que dans les années 60-70, il y avait vraiment cette volonté... Enfin, c'était un peu quelque chose d'assez... une institution, le doublage. Et puis après, petit à petit, dans les années 80-90, ça a changé. Et on est revenu dans quelque chose où c'est un peu pas tombé dans l'oubli, mais où on avait ce truc de dichotomie entre si t'es comédien et comédien de doublage, c'est pas la même chose. Enfin, c'est pas la même chose, c'est différent, c'était un peu mal vu. Et là, il y a un rebond, un regain d'intérêt pour le doublage, que tu vois depuis, on va dire, une dizaine d'années, où maintenant. T'as des grands noms du doublage qui sont aussi célèbres que les comédiens eux-mêmes, qui sont pour qui ils donnent leur voix, quoi.
C'est vrai. Mais l'un des sentiments de jeunes souvent avancés à l'encontre du doublage, c'est celui en fait de l'inadéquation, je vais y arriver, supposée d'une voix avec le corps et le visage vu à l'écran, comme je disais, de la part de Jean Renoir qui s'était insurgé là-dessus. Mais rien n'est plus subjectif, en fait, à tel point que l'artifice avait été utilisé, notamment au début du parlant, par Jacques Feder dans Le Grand Jeu. On voit notamment le personnage de Maribel qui incarne un double rôle, d'abord avec sa propre voix, et post-synchronisé avec celle par Claude Marcy, qui suscitait donc un trouble chez notamment le personnage de Pierre-Richard Wilm, qui est l'interprète du rôle principal du film. En fait, c'était un parti pris artistique aussi. Donc en fait, déjà, pas mal de réalisateurs vont quand même jouer sur le principe de « on peut travailler déjà sur la post-synchronisation, sur le doublage » et autres. Et c'est vrai que, comme on le disait, en fait, on a eu une affination, on a eu une affiliation même de plus en plus marquée, prononcée sur le doublage, et forcément, à travers nous, spectateurs, une personnalisation. Et c'est ce que je parlais juste avant, donc, du fameux culte du doublage, qui, je pense, en France, est l'un des plus forts.
Oui, alors, je pense que dans les pays européens, effectivement, la France, c'est là où le doublage, la culture du doublage est assez forte. Là aussi au Japon, où c'est encore vu autrement, et où le Japon aussi respecte beaucoup le travail qui est fait par les doubleurs français. Tu peux voir assez régulièrement, enfin, si vous vous... si vous vous rendez sur YouTube et tout, on peut voir par rapport à Dragon Ball, ils ont un truc qui est assez fou. Ils avaient invité Brigitte Lecordier, qui est la voix de Son Goku dans Dragon Ball, et Dragon Ball Z, elle fait deux personnages. Et ils l'avaient invité parce que c'est vraiment une institution, c'est un truc hyper respectable au Japon aussi. En Europe, c'est encore différent. Là, j'ai un exemple, quand j'étais allé en Russie il y a longtemps, les gendarmes à Saint-Tropez, je crois que c'était, qui passaient. Mmh. Et donc, nous, on a le doublage où vous avez ou la VO, où c'est sous-titré en français, ou alors vous avez la version française. Là, c'était carrément sous-titré en russe, mais avec les voix françaises par-dessus. Mmh. Et donc, il y avait... je vous dis des bêtises. C'était en version française, donc on entendait la voix de Louis de Funès. Oui. Et par-dessus,
il y avait une voix de
quelqu'un qui explique, la phrase, mais sans intonation, sans rien. Et on a juste ça. Où c'est juste une interprétation, c'est pas une interprétation, parce qu'il laisse l'interprétation à ce qui a été fait sur l'écran, mais que par contre, c'est juste une transcription bête et méchante, comme si vous aviez une transcription en sous-titré, quoi. Et c'est vrai que c'est dommage, parce que du coup, on perd quelque chose, ou t'entends pas forcément ce qui est en train de se dire, parce que c'est en même temps, c'est une espèce de décalé, et ça provoque quelque chose qui est bizarre. Alors qu'effectivement, là, en tout cas, ce qui a été essayé d'être fait en France, c'est qu'il y a un respect du matériau d'origine, quoi. Et que ça soit vraiment fidèle à ce qui se fasse, et que ça soit pas jouer autre chose, il faut vraiment coller au personnage, quoi.
D'où le principe de la bande rythmo.
Voilà, tout à fait. Et ce qui est drôle aussi, c'est que là, maintenant, les bandes rythmo sont faites numériquement, mais à l'époque, c'était fait à la main.
À la main, oui, en fait, c'était carrément directement fait, elle défilait à côté de l'image.
Comme une bobine,
En dessous de l'image,
C'est ça. Et ce qu'ils faisaient, c'est que pour pouvoir allonger un mot, pour pouvoir le raccourcir, ils écrivaient tout petit ou très grand. Et donc, ça fait que des fois, il y a des choses qui sont presque illisibles.
Oui.
Et donc, tu te dis, mais comment ils font pour lire le truc? En plus, vous devez regarder. Il faut savoir que donc, vous avez l'image et la bande rythmo qui est juste en dessous. Donc, vous devez avoir et le regard sur ce qui se passe à l'écran et ce qui se passe
en dessous. Et être synchronisé sur la bande.
C'est un vrai travail de précision. Tu dois penser à tout ce que... Enfin, à coller au personnage et tout. Tu n'as pas forcément le texte avant. Donc, c'est vraiment un vrai travail en soi, hyper compliqué. C'est pas simple. Mais...
Ah, c'est très compliqué, c'est très dur. Et c'est un vrai métier. Hein. On est au-delà du simple métier, je pense, de simple acteur, même si je dis ça en gros guillemets, forcément. Mais c'est vrai que c'est un nouveau travail. C'est une nouvelle perspective d'interprétation, de toute manière. Ouais. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, beaucoup, comme tu disais, donc beaucoup d'acteurs ont également été doubleurs. Hein. Même des acteurs qu'on ne pensait pas. Genre Yvan Attal, par exemple, à un moment donné, a été le doubleur de Tom Cruise. Mm-hmm. Pierre Arditi a fait pas mal aussi de rôles comme ça. En doublage. Je crois que même il avait même doublé De Niro à un moment donné dans sa carrière. Et c'est.
On a.
Oui.
Jean Benguigui, qui a fait Joe Pesci dans le.
L'immense Jean Benguigui.
Jean Benguigui qui fait Joe Pesci dans Les Affranchis. Et ça, c'est exceptionnel quand même.
Et pas que, je crois.
Alors, moi, j'ai surtout en tête Les Affranchis, mais il en a fait d'autres, effectivement. C'est comme Daniel Russo, qui est un acteur qui est très ami avec Laurent Baffy, qui fait beaucoup de ses pièces de théâtre et qui est comédien, quoi. Et il est une voix hyper célèbre pour avoir fait, entre autres, la voix d'Hervé Kettel et la voix de Splinter dans les Tortues Ninja. Et donc, du coup, voilà, c'est des gens qui ont vraiment... qui sont vraiment des comédiens ou des comédiennes.
C'est totalement ça, quoi. Et comme je le disais, en fait, avec l'accumulation des lois, forcément, il y avait une volonté très nationaliste à la base de protéger le patrimoine de la langue française. Et ça s'est continué, en fait, pour protéger, en fait, avec, contrairement à d'autres pays, hein, parce que, par exemple, vous allez en Allemagne, il y a un culte du sous-titrage. Vous allez dans les pays scandinaves, c'est quasiment que du sous-titrage pour les films étrangers. Toutes les langues, hein, attention, je précise pas que l'anglais.
Il y a juste les seuls moments où ils traduisent, c'est quand c'est des films familiaux ou quand c'est des dessins animés.
Pour les enfants.
Voilà, c'est ça. Mais sinon, effectivement, c'est vraiment que de la VO.
Exactement. Alors, c'est vrai qu'en France, en fait, vu qu'on a gardé on a gardé cette culture du doublage, il faut le voir, en fait, comme je le disais au tout début de l'émission, donc en France, en 2021, donc seuls 29% des films sont sortis en version sous-titrée. Et on a également, il faut également le souligner, on a le même constat avec Netflix. Et d'ailleurs, les représentants de Netflix le disaient, en France, donc, la majorité des spectateurs français regardent les programmes en version doublée. C'est une version qui est toujours comment dire, marqué, même si on a le choix du sous-titrage, généralement, on prend plutôt la version doublée. Alors nous, en tant que cinéphiles, forcément, on a plus l'habitude d'utiliser le sous-titrage, parce que bon, on a comment dire, su s'ouvrir sur différents types de langages, donc forcément ça nous travaille également là-dessus avec notre cerveau. Mais il faut le savoir, par exemple, la télévision, à la télévision, ils le disent, donc les contenus sont directement diffusés en VF. Maintenant, on a également la possibilité
de changer en VO, effectivement, de pouvoir, avec votre télécommande, de mettre la VO, et donc du coup, les programmes sont systématiquement en VO ils se mettent en VO. C'est vrai que la plupart, en tout cas la télé, eux, ce qu'ils font, c'est vraiment juste le doublage en VF.
Voilà, on laisse toujours le doublage. Et d'ailleurs, d'après une enquête sur Slate, notamment donc un des représentants d'une chaîne de télé, notamment de chez Bouygues, disait si une chaîne de télé passe version originale sous-titrée, le risque de perdre une audience atteindrait les 30%. Donc vous perdez quasiment un tiers de votre audience. Donc forcément, c'est quelque chose de très compliqué et qui va donc forcément pousser les gens à garder le doublage en français.
En français, bien sûr. Mais on a ce truc où on a un peu... Je pense qu'il y a aussi... Alors il y a le fait qu'on a été bercé, on a été biberonné et bercé à la VF.
Oui.
Mais après, je pense qu'il y a peut-être aussi pour certains la peur de se dire, est-ce qu'en VO, je vais tout comprendre et tout, et de se dire, je préfère garder la VF parce qu'au moins... T'as ce truc de, alors c'est bête, hein, mais de se dire, j'ai pas besoin de réfléchir, j'entends ce qu'on me propose et je vois le film, quoi.
C'est ça. Alors il faut le savoir, donc le culte du doublage, comme je le disais, donc est indéniable en France. Il suffit donc, comme on parlait déjà de pas mal de noms, il y a des doubleurs reconnus et ce sur plusieurs couvertures générationnelles. Hein. Mmh. Donc on peut citer, par exemple, cela va de Roger Carrel à, par exemple, dans les jeunes doubleurs, on a encore Donald Renew,
ouais, qui, mais lui, c'est ça qui est fou, c'est que lui, il a commencé hyper tôt.
Ouais.
Il a dû commencer, les premiers films qu'il a fait, je crois que c'était des petites voix dans des cafés et tout. Et ensuite, il a commencé, une des voix vraiment qui lui a mis le pied à l'étrier, c'est la voix d'Andy dans Toy Story. Et ensuite, il a enchaîné, et il est pas le seul, ils sont une espèce de génération, comme ça, un peu bénie, où ils ont tous commencé en même temps, et... continuellement, j'ai Dorothée Pousseau, Emmanuel Curtil. Alors, pour ceux qui se demanderaient qui sont ces personnes, Dorothée Pousseau, c'est Vanellope dans Les Mondes de Ralph, où vous l'avez entendu si vous regardez en VF Harley Quinn, elle fait beaucoup de personnages Disney. Emmanuel Curtil, c'est Jim Carrey.
Bah, elle fait, je crois, également la voix de Margot Robbie, si
j'ai
pas de bêtises.
Oui, voilà, c'est ça. Oui, elle fait aussi.
Elle a toujours une voix un peu cassée.
C'est ça, voilà.
Et
ce qui est assez drôle comme anecdote par rapport à Dorothée Pousseau, elle disait, alors des fois, c'est les directeurs de casting qui choisissent les voix pour essayer de coller à peu près au personnage qui est proposé. Et des fois, c'est carrément, quand c'est des grosses, grosses productions, c'est carrément les réalisateurs qui demandent des personnes, ou ça peut même être des acteurs qui disent « moi, je veux telle personne ».
Ça, c'était quelque chose de très représentatif, notamment dans les années 80. C'était carrément les acteurs, les grandes stars, choisissaient leur propre doubleur pour les différentes versions. Mais en France, c'était également le cas. Ça a été le cas notamment pour Schwarzenegger, qui a choisi son doubleur par téléphone, en fait, donc ils demandaient à des essais à plein de monde, et les agents, en fait, renvoyaient leur doubleur potentiel à faire des tests, et c'était comme ça que notamment donc son doubleur Richard Beretta a été sélectionné. Ça a été la même chose pour Julia Roberts, en fait. Et d'ailleurs, elle va encore plus loin, Julia Roberts, c'est-à-dire que quand elle va faire une interview à la télévision française, sa doubleuse fait également la traduction.
C'est ça qui est assez fou, quoi. Mais oui, mais il y a des, comme ça, des doubleurs. Il y a même Alain Dorval avec Sylvester Stallone, où ils ont la possibilité, voilà, de se dire, non, moi j'en veux pas. Enfin, ils ont maintenant la possibilité. Enfin, ces comédiens, enfin Stallone qui dit, moi je veux celui-là, et j'en veux pas un autre. Et puis c'est des voix. Je pense qu'il y a ce truc aussi où, comme c'est des voix où on a été bercé avec, devoir changer de personne, ça devient compliqué. Et tu sais que c'est mine de rien, ils travaillent aussi sur leur image. Enfin, c'est un travail
sur l'image. Hein.
C'est ça, donc tu te dis, s'il y a une voix qui change et tout, c'est foutu. Là, malheureusement, il a arrêté des films, mais Bruce Willis, Patrick Poivet, qui malheureusement est mort
il y a quelques années de cela.
Voilà. Là, il n'y a pas eu besoin de changement parce que Bruce Willis a arrêté sa carrière. Mais si on prend sur des dessins animés où les personnages, eux, ne meurent pas, comment tu fais pour faire le changement et pour ne pas perturber la personne non plus? Et j'ai un exemple, on parlait de Roger Carrel. Roger Carrel, donc, lui aussi, est décédé il y a quelques années. Mm-hmm. Roger Carrel, c'est Kermit, c'est Astérix, c'est Winnie l'ourson.
C'est immense. Hein. Il a une
voxographie qui émet. Immense, et il y a des fois tu dis non mais c'est pas lui, si
c'est Tropéo, enfin voilà,
Benny Hill, il fait Benny Hill aussi. Alors Benny Hill qui passerait plus maintenant, mais ouais, non c'est assez fou. Et ce mec là a dit, voilà, même eux dans leur passation a dit, écoutez, je ne vois qu'une seule personne pour me remplacer, et ce monsieur s'appelle Jean-Pierre Donda. Et Jean-Pierre Donda, si j'espère que je me trompe pas, que c'est bien Donda, oui, si c'est lui, ce monsieur, il est connu pour avoir fait un personnage dans les Totally Spies, et sa voix, alors c'est pas la plus connue, sa voix là, mais c'est une des voix des Salles Blagues de l'Écho. Et tu dis, il y a ce truc, parce qu'il a dit, t'es la voix qui se rapproche le plus de moi, donc je veux que tu me succèdes. Il y a aussi cette succession en fonction des différents doubles. Mais on voit que c'est un cercle assez... c'est un cercle qui se... Il y a eu une passation de la génération Carrel à la génération Donald Renew, Alexis Thomasian, qui est la voix de Fry. Et à partir de cette génération-là, il y a une nouvelle génération de comédiens de doublage qui arrive. Mais où c'est compliqué, c'est plus là où ça va se développer, c'est plus dans tout ce qui est avec l'arrivée des animés japonais, en fait, qui maintenant arrivent par centaines, par milliers. Et là, il y a de plus en plus d'offres, il y a de plus en plus de voix. Mais on peut voir pas mal, il y a aussi un intérêt pour les gens, pour le doublage. Et dire, tiens, mais ouais, mais moi aussi, j'ai envie de faire et tout. Et tu te rends compte que quand tu regardes les vidéos de Donald Renew, par exemple, de Dorothée Pousseau, il y a PAGD, P-A-G-D, qui est... lui, il fait la voix, il fait plein de voix de jeux vidéo, et aussi, il fait la voix du méchant dans Adibou. Ouais. Et donc, du coup, vous le voyez aussi, si vous regardez les vidéos du Joueur du Grenier, il est souvent dans les vidéos du Joueur du Grenier, il est dans les vidéos de Chez Chounet aussi, il fait Dumbledore dans la vidéo de Chez Chounet sur Harry Potter. C'est, voilà, et donc, cette personne-là, et d'autres personnes disent, le métier de... Ils expliquent comment pouvoir devenir doubleur, mais ils disent, mais il n'y a pas de... Enfin, même s'ils te disent et tout, il y a du travail et tout, mais on sent que c'est très fermé quand tu regardes. C'est vrai que c'est un cercle qui est assez... Si tu prends un tant soit peu d'attention sur les voix, tu te rends compte que c'est tout le temps les mêmes personnes qui tournent. On arrive dans un espèce de cercle, pas un cercle vicieux, mais un vase clos, quoi, où c'est tout le temps les mêmes personnes qui tournent.
C'est assez ça, parce que finalement, c'est un lieu où les places sont extrêmement chères, et on peut le voir en termes statistiques, c'est un milieu en fait qui s'ouvre quand même peu aux jeunes, et qui tend dangereusement à même à favoriser l'entre-soi. C'est extrêmement prisé, d'ailleurs, sur une enquête très intéressante de France Info sur l'industrie du doublage. En 2022, donc, sur 500 artistes réussissant à décrocher au moins 5 contrats, seule une petite trentaine à moins de 30 ans, c'est-à-dire environ 6%. Donc dans l'enquête France Info, donc en fait sur le profil même des 20 et 30 ans réussissant à se faire une place dans le doublage en 2022, la moitié est composée d'enfants de comédiens, de directeurs artistiques ou même d'autres célébrités.
Oui. On parlait de Beretta, la voix de Schwarzenegger, sa fille par exemple, elle est aussi comédienne de doublage. Et effectivement, t'as des noms qui reviennent assez régulièrement et où tu vois, c'est de la famille de telle personne ou de telle personne. Et c'est vrai que c'est assez compliqué. Mais j'ai l'impression que même dans les années 80, il y a eu un regard, mais là où, comme tu disais, où c'est plus facile, c'est quand t'es jeune. Et j'ai l'impression qu'à partir du moment où tu rentres en étant jeune, après t'es dans un circuit où si ça se passe bien pour toi, et t'es dans une continuité où en fait tu peux faire ça tout le reste de ta vie.
C'est ça.
Sauf que par contre, ça veut dire que les autres qui veulent essayer de rentrer à d'autres, c'est compliqué pour eux. C'est un peu fermé.
Anthony Panetto, dans l'étude de France Info, en fait, qui est un professionnel du secteur, il explique qu'en fait, on voit passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveaux, mais on en voit seulement une petite minorité réussir et s'implanter sur la durée. Ça s'explique notamment en partie sur l'omniprésence de certaines voix sur les castings, comme je le disais. Dans la saison 4, par exemple, de Stranger Things, sur les 7 rôles destinés à des adolescents, en fait, seuls 2 comédiens ont réellement le même âge que les acteurs originaux. D'autres ont la trentaine, voire même la quarantaine, et c'est vrai que certains en fait travaillent tellement bien leur voix que forcément on a du mal à ne pas avoir ce teint de voix qui diffère. Il explique d'ailleurs que les directeurs artistiques ont rarement maintenant le temps de faire des castings pour découvrir de nouvelles voies. Avant, on avait la possibilité d'organiser des essais, on faisait venir 3 ou 4 comédiens, explique notamment Grégory Lenne, le directeur artistique, mais c'était l'occasion de tester des nouveaux. Maintenant, avec l'arrivée des plateformes de streaming, il y a quasiment plus de temps pour des essais, c'est devenu extrêmement rare, et c'est un problème parce qu'il n'y a plus de place pour de nouvelles voies.
Ouais, non, mais c'est assez fou. En fait, on est entré dans une économie où bah, il faut enregistrer. Et donc le problème, c'est que vu que tu arrives dans un truc comme ça, même si tu essayes de faire un casting de quelqu'un, s'il n'est pas prêt, en fait, ça doit être le truc doit se faire du tac au tac. Tu as la vidéo, tu as très peu d'essais pour l'enregistrer. Donc soit tu es performant tout de suite et parfait, tu peux réussir. Si tu n'es pas performant, c'est mort. Et c'est horrible, c'est des choses que tu peux entendre. Par exemple, il y a une vidéo sur YouTube de Donald Renew qui explique comment être, s'il y en a qui veulent être comédien de doublage, comment il faut faire, et où il dit, en fait, moi je suis directeur de casting, mais j'ai pas, enfin, c'est horrible à dire, je le sais, mais j'ai pas le temps, en fait. Et donc du coup, si vous êtes pas, enfin, si la personne n'est pas capable,
pas performante dès le départ,
et ben c'est mort. Et donc du coup, tu te retrouves forcément, ils vont se retourner vers les gens avec qui ils ont les habitudes de travailler, avec qui ils savent que ça matche tout de suite, c'est bon, en une prise, c'est fait. Et donc, du coup, tu te retrouves dans un entre-soi qui est... Alors, j'aime beaucoup les Christophe Lemoine qui fait la voix de Cartman et tout, mais c'est vrai que quand tu tends un tant soit peu l'oreille, tu te rends compte que c'est tout le temps les mêmes personnes, quoi. Mm-hmm. Et c'est assez fou.
Autre fait intéressant, en fait, c'est qu'on a toujours beaucoup de doubleurs que l'on reconnaît par rapport forcément à être habitué à avoir des différents de jouer sur les différents acteurs et compagnie. Par exemple, un truc très intéressant, dans une interview de l'Ociné avec notamment donc le doubleur de Nicolas Cage, Dominique Collignon-Morin, qui expliquait, en fait, il a eu beaucoup de soucis, notamment sur certains projets où notamment il devait reprendre le doublage de Cage, notamment dans des films d'animation. Et en fait, lui expliquait, c'est vrai que d'abord, mon métier principal, c'est le théâtre. Je suis comédien. C'est un secteur dans le métier de comédien que l'on appelle le doublage qui peut forcément rentrer dans cet intérêt-là. Mais quand il a été donc... pour enregistrer les films annonces, c'est vrai qu'en fait, il a notamment reçu des messages sur son téléphone qui informaient en fait que son contrat n'allait plus être du même niveau, qu'ils allaient commencer donc baisser un petit peu, on va dire, sa session d'enregistrement, notamment chez Dubbing Brothers. Et donc, en fait, on lui expliquait notamment que la demande venait du client, qu'en fait, eux ne sont pas forcément reliés là-dessus, qu'avec l'arrivée du Covid, les gros studios ont commencé ici à baisser un peu leur coût de production. Donc, les sociétés de doublage ont également été un petit peu touchées, et on voit que pas mal de voix, en fait, de doubleurs, en fait, ont expliqué que ça devient dangereux, qu'il faut s'en inquiéter, notamment pour beaucoup d'industries dans le milieu, comme par exemple aussi dans les effets spéciaux. Hein. On a vu que actuellement chez Marvel, c'est un peu le désastre dans les techniques.
La FX, c'est assez compliqué.
Et c'est vrai qu'en fait, on parle toujours d'économie, mais comme il le dit lui-même, en fait, lorsque l'on pense aux milliards que rapporte le cinéma, il y a, comme dans toutes les industries, une volonté des studios de minimiser les coûts à tous les niveaux pour assurer de meilleurs dividendes aux actionnaires. Sachez que la dernière revalorisation de nos salaires, donc parler des doubleurs, notamment en France, remonte à 2012. Il n'y a rien eu depuis, et la situation est pire pour les directeurs artistiques.
Non, ça, c'est fou. C'est ce qu'il y a pu avoir avec la série Friends aussi.
Il y a eu carrément grève.
Il y a eu carrément grève, et ils ont demandé une revalorisation, comme les comédiens de la série étaient augmentés. Les comédiens de doublage ont demandé aussi, est-ce que, comme vu que le succès de la série était là, ils demandaient, ce qui était normal, d'avoir une petite augmentation sur leur salaire, et ça a été refusé. C'est pour ça que à partir de la saison 7 ou 8, on a des changements de voix de comédiens de doublage ou de comédiennes de doublage, parce que ils ont préféré le profit économique à la qualité de doublage, en fait. Et tu te retrouves, alors c'est pas les seuls, hein, y a eu plein de choses comme ça où ça s'est fait. Et oui, maintenant, ce qui est horrible, c'est que tu arrives dans un truc où c'est une économie de marché, en fait. Tout est devenu une économie de marché, et tu réduis les salaires, quoi.
Voilà, C'est ballot à dire, mais c'est vrai que c'est un contraste qui, enfin, c'est un constat qui se fait de plus en plus présent dans ce milieu-là, quoi. Et en parlant de contraste, c'est vrai qu'en plus dans la culture du doublage que l'on parlait en France, on a toujours un peu assimilé un peu le cliché entre le fait de voir, on va dire, des consommateurs en métropole et des consommateurs dans les campagnes. D'un côté, on a le cinéma d'art et essai qui va préférer valoriser la VOST, et de l'autre côté, le cinéma populaire qui forcément va mettre tous les films en VF. Forcément, c'est une étude de marché que font plein de cinémas par rapport à leur implantation et compagnie. On peut le voir par exemple dans les coins là où on enregistre, à Nancy. On a donc des cinémas d'art et essai comme le Caméo, à Commanderie et Saint-Sébastien qui mettent les films en VOST. Vous allez notamment dans les gros complexes comme Kinépolis, ça va privilégier la VF. L'UGC, c'est pareil, à Saint-Jean,
Ludre. Aussi,
oui. Et par exemple, nous avons des petits cinémas un peu plus de quartier mais qui restent populaires, comme par exemple le Royal Saint-Max qui va donc privilégier la VF.
Carrément. Moi-même, je vois, moi, je pense à... Mes parents habitent près de Homécourt. Enfin, ils habitent à Homécourt, ils habitent près d'une ville qui s'appelle Jeuf. Et normalement, le cinéma le plus près, ça devrait être Amnéville, donc le Gaumont, qui maintenant est devenu un Kinépolis Amnéville, qui est la même chose, qui privilégiait la VF. Et t'avais un petit ciné d'art et essai qui proposait le week-end le film en VF pour la famille, enfin, qui soit visible par toute la famille. Et pour un plus petit nombre, le lundi, tu avais un film d'arrêt essai en VO, mais c'était des séances qui étaient beaucoup, beaucoup moins présentes que les séances en VF. Quoi.
Et pourtant, finalement, on remarque, même dans les grandes villes en tout cas, et même dans certaines villes un peu moins remarquées, de plus en plus de gros cinémas, en fait, lorgnent quand même sur la VOST. On le voit notamment à Nancy avec l'UGC Saint-Jean qui... maintenant passe quasiment que de la VOST.
Oui, c'est vrai qu'il y a maintenant... Alors, ça s'est inversé. Avant, tu avais plusieurs séances en VF et une ou deux séances en VO. Et là, maintenant
c'est une majorité, quasiment de la majorité de la VOST.
Une ou deux séances en VF, mais pour les après-midi, pour les familles, quoi, plutôt le week-end ou les...
Exactement.
Le week-end ou en après-midi pour les familles, quoi.
Et même des gros cinémas comme à Paris, par exemple, le Grand Rex propose carrément les deux versions.
Les deux versions, ouais, carrément, oui.
Donc c'est vrai que là on a vraiment ce...
Oui. Je pense qu'avec les plateformes de streaming, en fait, il y a aussi une culture de la VOST qui s'est doublée, qui a grossi aussi. Parce que c'est vrai que quand on était dans les années 90, pour avoir une série en version originale, fallait acheter le DVD ou tu voyais pas à la télé, tu n'avais pas accès.
C'était très
rare.
Pas
vraiment accès. Alors que là, maintenant, avec les plateformes de streaming, tu as le choix de mettre ou en version française ou en VO. La preuve, c'est que les gens choisissent quand même, même avec le choix, ils peuvent quand même choisir la VF. Donc, la VF a pas de... Enfin, il n'y a pas de souci. Ils n'ont pas de souci à se faire. Enfin, quoique, mais on en parlera peut-être après. Par contre, voilà, tu as la possibilité aussi de dire, bah, tiens, j'ai envie d'aller sur la VOST, que ce soit pour améliorer ton anglais, écouter, voir comment ça se passe aussi, quelle est leur qualité de jeu aussi à côté. Et puis, je pense qu'il y a aussi, d'une certaine manière, tu as des séries, et alors là, je parle du côté animé, où tu as eu aussi, comme il y a une prolifération de séries d'animés japonais, et je ne parle pas que de Naruto, One Piece, ou les Demon Slayer.
De manière globale.
Mais de manière globale, tu as plein de séries qui sont... Et donc, qui dit énormément de séries, dit aussi des séries que tu ne trouves pas forcément tout de suite, et que tu arrives à trouver par d'autres moyens, et que tu trouves en VOST, et donc aussi, il y a ça qui a développé l'appétence de la VOST pour les jeux, enfin, que les gens ils aiment la VOST, quoi.
C'est vrai. Alors c'est marrant que tu parles aussi forcément du langage, du travail de regarder de plus en plus en version sous-titrée, parce que c'est vrai qu'en fait il faut quand même revenir que la compréhension de la langue, enfin surtout de la langue anglaise, on va revenir là-dessus forcément, parce que c'est la majorité des films que l'on voit en sous-titres. La France, elle, se classe seulement 34e en maîtrise de l'anglais, selon la dernière étude de Education First. Est-ce que ce serait pas aussi l'arbre qui cache la forêt d'une certaine manière ? Est-ce que ce serait pas le cercle vicieux aussi que l'on voit sur le contraste entre les partisans du doublage et les partisans du sous-titrage ? Car en fait... comme je le disais, donc la télé perd en moyenne 30% de téléspectateurs quand ils passent une émission passée en VOST. Mais est-ce qu'en fait, ce serait pas forcément aussi, comment dire, une chose que l'on peut incriminer par le niveau d'anglais en général ?
Je pense qu'il y a de ça aussi qui joue, le fait que je pense qu'il y a une certaine peur de se dire ah non, c'est pas la peine, je vais pas comprendre, j'ai envie de voir la série, elle m'intéresse, donc je vais mettre en VF. En fait, tu cherches enfin, entre guillemets, pour certains, c'est plus la facilité de se dire, au moins, voilà, au moins j'aurais tout compris, et ben voilà. Après, pour certains, la VO, c'est devenu une... Enfin, je pense que, tu sais, c'est un peu comme tout, à partir du moment où t'as écouté la VO et tout, tu dis, ah bah oui, bah, forcément, c'est original, c'est l'acteur, c'est l'acteur qui joue, c'est l'actrice qui est en train de jouer, donc forcément, et c'est leur voix, donc t'as un truc où plus tu en écoutes, plus tu dis, ah ouais, bah tiens, je vais plus aller vers la VO. Mais je comprends tout à fait les gens. Effectivement, je pense qu'il y a une histoire aussi de peur de l'anglais et de peur du niveau d'anglais où se dire, ah, je vais rien comprendre, c'est pas la peine. Et ceux qui ont un meilleur niveau d'anglais disent, bon, non, mais en fait, c'est plutôt simple, ça va, y a pas la barrière de la langue, quoi. Et donc, du coup, ça va, ils vont plus facilement aller vers de la VOST. Je sais que, par exemple, moi, les films en italien, j'ai pas de peur d'aller vers des films italiens parce que je sais que je vais comprendre et que. Donc, il n'y a aucun problème, tu vois. Et vers certains... voilà. Après, je pense qu'il y a aussi il y a une curiosité qu'il n'y avait pas forcément avant aussi pour les langues et tout, qui se développe de plus en plus. Et donc, du coup, ça donne envie d'aller plus vers de la VOST.
Oui, excuse-moi. Ouais. j'ai cru que tu allais rebondir là-dessus.
Voilà, voilà.
Non, mais c'est vrai, en fait, on a toujours en fait l'idée que le français, en gros guillemets, n'aime pas l'anglais. C'est pas tout à fait forcément. On est toujours en fait dans une culture forcément où on est toujours plus proche de notre langue plutôt que de s'ouvrir à l'autre. Mm-hmm. Mais en fait, c'est l'histoire des lois de ces pays qui suffisent pas seulement à expliquer les choix, comme le dit notamment certains représentants du milieu. Cela dépend beaucoup de la taille du pays, de sa proximité avec la culture anglophone, ce que représente la majorité des œuvres étrangères. Notamment les pays du Nord ont une culture anglaise forcément plus développée, les latins sont plus réfractaires à la langue de Shakespeare, mais c'est surtout en fait forcément d'un aspect culturel de base, il faut quand même revenir là-dessus, quoi. Les français, certes, on va dire en gros guillemets, sont nuls en anglais, donc ils n'aiment pas la VO, mais pourtant en fait c'est pas forcément vrai. On le voit de plus en plus, on a de plus en plus de VOST dans les salles de cinéma, on a de plus en plus forcément l'utilisation de la VOST dans les plateformes, parce que des fois c'est même pas une option, c'est une restriction. Ça peut arriver que certains films n'ont jamais été doublés en français. Vous pouvez trouver facilement des films comme ça là-dessus dans différentes plateformes, hein. Ça peut être, alors pas forcément Netflix, parce que Netflix, eux, ils sont vraiment dans uniformisation générale, mais vous prenez des plus petites plateformes, par exemple je pense à Shadows, qui est une plateforme de cinéma de genre que je suis c'est tout depuis le début en fait, même où certains films ne sont pas du tout doublés en français, quoi.
Mmh. Bah, je parlais tout à l'heure d'animé japonais, il y a une plateforme qui s'appelle Crunchyroll qui propose beaucoup d'animés japonais, alors ceux qu'on connaît de base, les One Piece, les Naruto et tout, et d'autres aussi un peu plus de niche entre guillemets, et où bah la VOST c'est la seule chose que t'as, quoi. Et même sur certains classiques de l'animé, je crois qu'il y avait Yu-Gi-Oh! Digimon, ou là où ils sont aussi que en VOST. Et après, je pense qu'il y a aussi une volonté aussi de la plateforme de streaming de dire, bah, on propose autre chose que la VF. Alors, ou c'est une volonté, ou alors aussi c'est une question de pognon, parce que les doubles, si tu veux avoir le doublage, je pense que tu dois aussi payer des droits, et donc voilà, c'est pas tout le temps simple, quoi. Mais ouais. Et je ne sais plus. Et non, mais c'est assez fou. C'est assez fou. Et je me demande en même temps, je me dis, c'est un peu ironique, parce que quand tu te dis que au 18e, 19e siècle, le français était la première langue mondiale et tout le monde parlait français, et personne se dit, non, le français, pourquoi Pushkin y parlerait français, qui parle russe. Et là, maintenant que c'est l'anglais qui devient la première langue mondiale, oh non, j'ai pas envie de me faire. T'as un peu ce truc de ce truc de la langue française que tu mets sur un piédestal, ouais, et où t'as du mal à aller
C'est vrai, ça. Historiquement, en fait, dans cette période-là, en fait, le français était la langue de la diplomatie. Et l'anglais, en fait, l'imposition de l'anglais est presque devenue par force culturelle, en fait. Donc, forcément, on n'est pas dans la même vision des choses, et forcément, heureusement même, parce que 18e, 19e siècle, heureusement, notre société a bien changé, mais c'est vrai qu'en fait, ce que l'on peut aussi avoir peur avec, d'une certaine manière, on va dire, le côté doublage français, notamment par le biais de la télévision, où on a vu quand même beaucoup de faits et gestes de la part des télévisions, c'est d'édulcorer en fait certains films, et en fait, avec ou sans censure, même le doublage traîne toujours une image grand public.
Oui, carrément.
Accessible directement, forcément, mais qui dénature d'une certaine manière pour certains l'œuvre et les jeux d'acteurs. Notamment, alors, comme le disait bien Thierry Lenouvel, rares sont les gens qui peuvent voir de la VO sans sous-titres, or la lecture de l'image est plus importante que le sous-titré, et le sous-titre donc nuit à cela, et cela permet en plus donc de trahir les dialogues en les raccourcissant. Bien sûr que la VF donc recouvre la voix des comédiens, mais c'est un mal nécessaire. Il faudrait donc apprendre au public à écouter un doublage. Les gens ne savent pas ce qu'est un bon doublage. Bon, là, ça va peut-être un petit peu loin là-dessus, je trouve, en termes de propos, mais c'est vrai qu'en fait, c'est très compliqué de trouver en fait son choix et sa langue. Est-ce qu'on parle en VF, est-ce qu'on a envie de voir en VF, est-ce qu'on a envie de voir en VO. Moi, ça m'arrive par exemple de laisser des films en VF parce que c'est des souvenirs. Oui, si ouais, je regarde des films des années 90, je me dis tiens, même Jurassic Park, je connais les voix originelles, mais j'ai envie de le voir en VF parce que la voix de le doubleur de Sam Neill fait un très bon travail. Il y a Malcolm pareil, voilà, il y a
Jeff Goldblum est excellent.
Voilà, c'est ça.
Oui, les doublages sont super. Il y a la voix de Christopher Lloyd, Pierre Atté, mm-hmm. qui fait la branche d'ADN et tout.
Oui, oui.
La voix de Doc Brown. Ou du Joker. Et effectivement, je pense que ouais, ça marche sur ça, en fait, sur la nostalgie aussi. Mmh. Je sais que moi, par exemple, aussi, les vieux films, j'adore, je peux pas les regarder. Enfin, en fait, je pense que les films avec lesquels j'ai grandi et que j'ai aimé, j'ai du mal à les regarder en VF parce que pour moi, c'est pas possible.
Ouais.
Tu dis non, il y a un truc qui va pas, quoi. Tu regardes Retour vers le futur, Marty, il a la voix de Marty, il peut pas avoir la voix de Michael J. Fox, alors que c'est complètement.
Et pourtant, la voix n'est pas si éloignée que ça,
oui,
en fait.
Oui, parce qu'il faisait un travail où il essayait d'être le plus rapproché possible de la voix, quoi. Et tu dis non, mais moi c'est pas possible. C'est bête, hein, parce que je suis sûr que c'est très bien en VO, mais je n'arrive pas à les regarder.
Ouais.
Par contre, des films maintenant actuels, j'ai plus de mal à les regarder en VF, parce que comme je m'intéresse au doublage et que je regarde des vidéos avec des comédiens de doublage qui sont invités, qui parlent et tout, bah, une fois que tu t'y intéresses, tu dis ah oui, mais lui il joue dans ça, lui il joue dans ça, lui il joue dans ça. Et t'as du mal à. Moi j'ai du mal à me détacher de ça. Mm-hmm. Et donc du coup. Quand je retrouve ceux que j'aime bien, bah, je suis content. Et quand t'as des nouveaux aussi, t'as ce truc de ah oui, mais c'est ça qui est un peu bizarre,
oui.
qui est un peu parce que tu dis ah oui c'est lui, mais c'est chiant c'est lui. Et quand t'en retrouves des nouveaux, tu fais ah ouais mais la voix là elle est pas terrible. C'est bon, je mets en VO.
Et ça se trouve les générations après nous ont peut-être déjà en fait ce culte aussi hein, d'une certaine manière. Alors après c'est vrai que forcément je pense que niveau doubleur personne n'aura l'aura et la puissance d'un Roger Carrel parce que bon c'était quelque chose qui était aussi représentatif de l'époque, mais ça reste indéniable que c'est un métier qui est toujours là et présent et vivant. Mais c'est vrai que comme tu le disais notamment de se rapprocher le teint de voix, là il peut y avoir un danger et ça vient notamment avec des nouvelles technologies et notamment l'ascension de l'IA, de l'intelligence artificielle, car c'est vrai que l'on remarque et l'on voit en fait depuis quelques temps que l'IA en fait permet tout d'abord notamment de corriger des mouvements de lèvres d'une langue à une autre et donc en fait ça permet également de redonner en fait un grain à la voix originale de l'acteur actrice, mm-hmm. mais surtout en fait la synchro labiale est quasiment parfaite.
Carrément, ça fait qu'on pourrait avoir Brad Pitt par exemple qui parle avec la voix de Brad Pitt et plus avec la voix de son comédien de doublage et donc du coup tu dis c'est un peu flippant parce que du coup est-ce que ça veut dire que c'est la fin des comédiens de doublage, est-ce que ça veut dire qu'ils vont être petit à petit remplacés? Et donc du coup il y a un truc où il se dit bah non en fait on peut pas, enfin une IA peut pas remplacer remplacer une voix, la chaleur d'une vraie voix humaine quoi.
C'est ça en fait, est-ce que là ça va par exemple donc juste soutenir le doubleur et corriger donc gommer les petits défauts comme je disais donc
ça,
les mouvements de lèvres.
Si c'est juste ça et que c'est la synchronisation juste avec la, tu dis ok d'accord, mais si c'est carrément remplacer la personne et faire traduire avec le grain de voix de la personne en différentes langues, là tu te dis ça pose un problème aussi parce que ça veut dire t'as une question aussi sur la voix de la personne, la voix du comédien c'est aussi son jeu donc il y a un droit aussi sur ça, qu'est-ce que tu fais de ça quoi.
L'IA, en fait, c'est une technologie absolument qui presque nous dépasserait en ce moment même, j'ai envie de dire. Et c'est vrai qu'en fait...
Regardez les vidéos de Caris qui chante petit ours brun et tout, c'est génial.
Ouais, même Scooby-Doo. des techniques, en fait, de plus en plus poussées, qui forcément inquiètent le milieu. La peur que l'IA, en fait, prenne pour la suite leur place. Est-ce que ce sera vraiment le cas ? C'est une psychose qui est compréhensible, qui est complètement compréhensible. Notamment quand on voit certains derniers résultats qui sont absolument bluffants. On voit même encore à l'image, notamment chez Midjourney, là où ça prend une ampleur assez folle. Là, au niveau du son, on voit qu'on peut carrément sampler totalement les voix d'une personne et faire carrément ce que l'on veut. Et notamment, ça me faisait penser à un article que j'ai déjà vu où un doubleur... s'était alarmé sur le fait qu'en fait il avait sa voix qui était déjà prise dans la bande-annonce de la série sur Daryl Dixon, donc la version où Daryl est dans la nouvelle série de Walking Dead, pardon, où il est à Paris, je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc en fait le doubleur donc de Norman Reedus n'avait pas encore fait le doublage pour la bande-annonce ou même pour la série, qu'une personne avait déjà balancé sur internet la bande-annonce
avec sa voix,
digitalisée, utilisée par une IA qui retravaille donc toutes les sonorités du personnage, qui passe donc de l'anglais en français avec cette voix-là. Et là, forcément, la sonnette d'alarme est mise en place, et forcément, ça devient flippant.
Bah ouais, tu dis... ouais, ça fait.
Parce que quand on parle des industries qui essayent de baisser les coûts de production et compagnie,
ça
peut revenir forcément dans cette éventualité-là.
Bah, est-ce que tu passes par une entreprise qui va te payer beaucoup moins cher, qui va travailler avec d'autres comédiens sur le travail de comment on peut dire telle voix et tout, sans que ça soit forcément la voix de telle personne.
Exactement.
Et ensuite, à partir du travail qu'ils auront fait avec ces comédiens, ils vont l'adapter aux voix aux bases de données qu'ils ont récupérées des différents comédiens et comédiennes, et tu dis, bon bah du coup ça pourrait être la fin du doublage français, même si je me dis que quand même t'as une institution qui est quand même assez présente, donc qui disparaîtra pas comme ça. Quand tu regardes des documentaires sur l'IA, ils avaient interviewé une entreprise anglaise qui disait non c'est pas du tout ça qu'on veut faire, en fait ce serait juste pour baisser le coût de production. Et ben en fait nous ce qu'on fait c'est que les gros comédiens et ben ils restent. Mais les seconds rôles, les choses comme ça, ce serait fait par l'IA. Et donc, du coup, mais tu dis, mais c'est la même chose, en fait.
Bah oui, ce serait la même menace. Bah, parce que, regardez, récemment, on a eu donc une grève à Hollywood, notamment sur les acteurs, parce que certains même petits rôles ont carrément été digitalisés, retravaillés. Notamment, c'est ce qu'a fait Disney pour Disney Plus et compagnie. Ils ont une base de données où ils ont pris tous les acteurs de troisième rôle, de quatrième rôle, des mecs en background qui vont digitaliser, ils vont le remettre dans plein de films, ils vont leur changer les vêtements et compagnie. Et en fait, votre visage, votre appropriation directe, eh ben, elle sera même pas prise en compte dans les chèques et compagnie, quoi. C'est vraiment, vous avez été utilisé une seule fois, vous êtes repris dans d'autres films. Et ça devient flippant, en fait, d'une certaine manière. Parce que la protection de soi-même, elle n'existe plus.
Mais
même.
Voilà, c'est ça, t'es dépossédé de ton corps et de ta voix, quoi. C'est assez fou, quoi. Ça fait peur, quoi.
Mais c'est une chose qui, je pense, ne sera pas réalisable par le biais de ça va s'élever de partout. On a vu qu'il y a eu une grève là-dessus. Je pense qu'au niveau du doublage, ça sera la même chose. Ça impactera peut-être forcément moins, parce que malheureusement, c'est un métier qui reste dans l'ombre, il faut quand même le dire. Mais je pense que c'est un milieu qui ne sera forcément impacté, qui va forcément évoluer, mais qui ne disparaîtra pas.
Non, je pense pas. Il y a une phrase que j'ai entendue dans un documentaire qui m'a beaucoup fait rire et intriguer en même temps. C'est un youtubeur qui s'appelle Mr. Fox, qui est spécialisé, qui fait beaucoup de vidéos autour du doublage. Et il disait, dans les années 50-60, on imaginait que les robots, l'IA, allaient nous aider pour tout ce qui était les tâches manuelles et choses, pour qu'on puisse donner plus de temps à tout ce qui était créatif. Et on se rend compte que maintenant, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on veut à tout prix remplacer le créatif, l'artistique, par les IA, pour travailler sur d'autres choses plus manuelles, pour faire augmenter l'économie et tout. Et tu dis, c'est fou, quoi, parce que du coup, on a complètement
inversé les
rôles, quoi.
C'est vrai. Merci Guillaume pour cette émission.
Ben, merci à toi, Roland.
Ben, écoute, c'était avec un grand plaisir. Ah, et ben, du coup, donc, on revient la semaine prochaine pour un autre sujet. Et cette fois-ci, on reviendra donc sur le festival de Gérard May.
Ah oui, le festival de Gérard May.
Ciao tout le monde.
Salut.
J'arrive pas à le digérer. T'avais raison, on aurait dû prendre une Wish Lorraine. c'est que j'ai mal au bide. J'ai la méga chiasse, putain, la méga chiasse.
Excuse-moi,
mal au bide, tu sais ce que c'est? Faut que j'aille chier, bordel. Faut que j'aille chier, rapidos.
Alors, une, tu poses mon bouquin d'exercice isométrique tout de suite. Merci. Et deux, on pourrait savoir ce que tu fais dans mon bureau, s'il te plaît.
Rien. À part que je viens d'avoir une information qui mérite la une. La mort de Georges n'était pas accidentelle, il s'est fait assassiner.
Savoir comment tu sais ça?
Ah bah c'est très simple, j'ai le tuyau par un dénommé Gorge Profonde.
Ah bah merde, alors Gorge Profonde, c'est incroyable ça. Bon maintenant t'arrêtes, parce que je te ferai dire que pendant qu'on parle, Peter il a la méga chiasse.